Bonjour Gérard Longuet.
Bonjour.
Alors ça n'est pas pour parler de football que vous êtes avec nous ce matin, mais enfin tout de même, la France est en finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous attendiez à un si beau parcours de l'équipe de France ?
Oh, je m'en réjouis, je ne suis pas très compétent en matière de foot, mais je m'en réjouis parce que Didier Deschamps est un homme qui a imposé un esprit d'équipe à de très fortes personnalités qui sont des stars dans leurs clubs respectifs et qui, à ces occasions du Mondial, ont accepté de jouer ensemble et de former une équipe, ce qui n'était pas certain à l'origine. C'est une très très belle réussite. Et puis pour le moral français, bon, c'est l'idée que, contrairement à Coubertin, l'essentiel n'est pas de participer, l'essentiel est de gagner. Ça change un peu l'attitude. Il paraît qu'on aime les poulies d'or et les seconds en France. Bah, pour une fois, on essaye d'être premier. Je ne peux que m'en réjouir. C'est une bonne leçon pour tout le monde.
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'équipe de France, d'ailleurs, avant le départ. Une Coupe du Monde, ça ne se joue pas, ça se gagne.
Oui. Le président Macron avait été, je crois, au centre d'entraînement, leur dire, les petits gars, je ne pense pas bien à vous. Je vous demande de gagner. Bon, il a eu raison de le faire. Et si en plus il pouvait le faire pour lui-même dans les réformes économiques et sociales de notre pays, ce serait pas mal.
Est-ce que votre niveau de compétence que vous avez vous-même jugé modeste vous permet de faire un pronostic sur le résultat de dimanche soir ?
Ce sera donc soit face à la Croatie. Il faudra savoir si c'est la Grande-Bretagne ou la Croatie.
Oui, mais dans un cas comme dans l'autre.
Ça me ferait plaisir qu'on batte la Grande-Bretagne. Voilà, c'est mon côté marin.
Oui, la perfide Albion, quoi. Alors, l'OTAN se réunit en sommet aujourd'hui et demain à Bruxelles. De l'avis des acteurs du sommet, comme de très nombreux spécialistes du sujet, ça devrait être un sommet tendu, voire très tendu. Est-ce que, d'abord, on peut craindre que la réussite de ce rendez-vous dépende en partie de l'humeur de Donald Trump ?
Assez largement, parce qu'il y a un vrai problème. L'Amérique de Trump, je dis bien celle du président Trump, pose de grosses questions à ses partenaires européens, notamment la guerre commerciale, dont on voit bien qu'elle pèse sur l'activité économique mondiale comme une sorte de menace que traduisent d'ailleurs les marchés financiers avec des indices qui sont très incertains. D'autre part, les relations avec la Chine. Bon, que la Chine soit exigeante, envahissante, qu'elle soit ambitieuse, chacun le sait. Est-ce que la guerre est nécessaire ou pas ? En tous les cas, les États-Unis la déclarent à la Chine sans demander l'avis des Européens et en dehors des règles de l'OMC. Donc nous avons un problème de partenariat économique. Ce problème de partenariat économique rejaillit nécessairement sur les relations politiques et donc sur la construction militaire que représente l'OTAN.
Les États-Unis ont-ils raison quand ils considèrent qu'ils payent beaucoup trop pour l'OTAN et que nombre de pays membres ne prennent pas une part suffisante de l'effort ?
Si vous voulez, le paradoxe de l'OTAN, c'est que l'OTAN s'est offert un nouveau siège somptueux et ruineux à Bruxelles sans redéfinir sa finalité. L'OTAN est né, on le sait, de la guerre froide, du régime, du danger soviétique qui était réel dans les années 50. C'était il y a 70 ans. Mmh. Aujourd'hui, on se pose quand même vraiment la question de savoir quel est l'adversaire et quelle force, quel effort. Lorsque le président Trump dit « les Européens ne payent pas assez », sans doute est-ce vrai pour la plupart d'entre eux. L'effort militaire est un effort qui doit être constant, car on ne reconstruit pas une armée lorsqu'on la fait disparaître. En revanche, c'est un effort qui doit être proportionné à la menace. Or, j'estime que la menace n'est plus de même nature, elle n'est plus de même importance.
Et elle s'est déplacée géographiquement ? Elle est moins à l'est et plus au sud ?
Et elle est certainement moins à l'est et plus au sud, et elle est surtout moins militaire qu'elle ne l'a été par le passé. Elle est beaucoup plus politique. Ce que l'on appelle les guerres dissymétriques, ce sont en réalité des conflits politiques. Et les conflits politiques ne se règlent pas qu'avec des armes. Les armes peuvent être à un moment ou un autre utiles pour faciliter une solution politique. Elles ne remplacent pas une solution politique. Or, l'OTAN, dans bien des domaines chauds d'aujourd'hui, n'a pas de solution politique. C'est vrai au Proche-Orient, c'est vrai en Afrique, et d'une certaine façon, c'est vrai dans sa relation avec la Russie. On a l'impression parfois que l'OTAN aimerait réinventer la guerre froide. Or, la Russie est un pays partenaire de la communauté mondiale, qui a certes, sur certains sujets, des attitudes qui ne sont pas conformes à cette communauté mondiale, reconnaissons que ce ne sont pas des sujets qui remettent en cause l'ordre mondial. Donc, nous, Européens, avons intérêt à discuter avec les Russes. Il serait paradoxal que Trump puisse aller en Norvège voir le président Poutine et parler avec lui, et en même temps que les États-Unis interdisent aux Européens de travailler directement avec les Russes.
Alors, le président américain, justement, a donné le ton. Je disais que ça, on annonce un sommet tendu. Il a donné le ton avant de quitter Washington en déclarant que sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président russe, demain à Helsinki, pourrait être plus facile que le sommet de l'OTAN. Quel langage, selon vous, vont se tenir les présidents russes et américains ?
Bon, dans les deux cas, ce sont des gens réalistes. Leurs carrières ne sont pas les mêmes, mais leurs engagements professionnels à l'un et à l'autre les ont toujours poussés au réalisme. Réalisme des affaires pour Trump, réalisme du système de renseignement pour l'autre. Donc ce sont des gens réalistes qui ne vont pas se payer de mots et qui s'en tiendront au fait, j'en suis à peu près convaincu. Mais la vérité, c'est que nous, Européens, avons besoin d'être partenaires des Russes et de demander aux Russes de faire le maximum pour qu'ils puissent être nos partenaires. Les États-Unis sont de l'autre côté de l'Atlantique, ça n'a échappé à personne, et leur préoccupation, elle est pacifique au sens de l'océan Pacifique, ce qui évidemment la distingue de l'Europe, qui, elle, doit considérer la Russie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un trait d'union entre l'Europe, le monde musulman au sens large, l'Orient, le Proche-Orient et naturellement la Chine, qui veut, avec ses routes nouvelles de la soie, assurer une continuité territoriale. Et c'est cette question qui mérite d'être regardée avec les Russes et qui nous rapproche d'eux et qui nous distingue des États-Unis.
Est-ce que les divisions entre les États-Unis et les Européens font les affaires de Vladimir Poutine ?
Oui, naturellement. Naturellement, parce que Poutine a vis-à-vis de l'Europe, il y a des relations nécessairement difficiles. La façon dont il a traité, je dirais, brutalement l'affaire de Crimée, ou dont certains des éléments russes soutiennent, au-delà du raisonnable, les dissidences ukrainiennes, manifestement, le fait pour Poutine de dire, voyez, je rencontre le président Trump et je parle avec lui, lui permettra de laisser faire comprendre aux Européens que leur opposition, leurs sanctions sont au fond assez marginales pour lui. Ce qui d'ailleurs est en partie vrai. Je veux dire que les sanctions sont plus dures pour les agriculteurs européens qu'elles ne le sont pour les investisseurs américains.
La ministre des Armées, Florence Parly, estime, je la cite, que dans ce contexte, l'Europe de la défense est une construction nécessaire. L'Europe de la défense, c'est vraiment l'Arlésienne parmi les Arlésiennes. Mais est-ce qu'il faut ressortir cette idée, la remettre au devant de la scène ?
Ce que Mme Parly oublie de dire, et c'est normal d'ailleurs, parce que c'est peut-être plus le rôle du chef de l'État, et sur ce point, il a été curieusement absent à Versailles lundi dernier, c'est au fond, quels sont nos adversaires, quels sont nos alliés, quel est le projet. L'Europe de la défense n'a de sens que si on a des objectifs communs. Or, ces objectifs ne sont pas les mêmes. On peut comprendre, en gros, pour simplifier, les pays de l'Est s'inquiètent de la Russie, l'Allemagne s'inquiète des Balkans, et nous, on s'inquiète du Sahel et de la Méditerranée. Donc, nous avons trois terrains qui sont trois terrains très différents. Les Français considèrent que les Allemands ne s'intéressent pas assez au Sahel, mais nous, on ne s'intéresse pas du tout aux Balkans, qui préoccupent les Allemands, par exemple. Donc, pour faire une Europe de la défense, il faudrait avoir un projet politique commun.
Merci Gérard Longuet. Bonne journée.